Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 1er. Paul écrit ici : Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Voilà, nous avons médité ces derniers mois, épisodiquement, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, quelques pensées. Dans ce chapitre 2, vous vous souvenez que dans le début de cette épître, cette lettre que Paul a écrite à l'église d'Éphèse, bien, Paul va décrire ce plan de salut que Dieu a mis en œuvre par Jésus-Christ. C'est en Christ, rappelle-t-il aux Éphésiens, il s'agit des chrétiens de cette assemblée, que le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il rappelle ce que Dieu a fait, il rappelle tout ce que Dieu a mis en œuvre. C'est un plan glorieux, un plan divin qui a été mis en œuvre par la venue de Jésus, par son œuvre, son action dans l'Église. Vous voyez, le plan de Dieu s'effectue sur la terre et il agit dans sa maison, l'Église étant la maison de Dieu. C'est glorieux, ça, hein, de penser que nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais gens de sa maison, nous sommes aussi devenus membres de son corps. Hein, Jésus étant la tête, et voilà, nous sommes devenus chacun des membres, dans la mesure où nous sommes ce matin en Christ, dans la mesure où nous sommes à lui. Et Paul va expliquer tout ça, il va dire tout cela aux Éphésiens, il prend du temps pour réfléchir sur l'infinie richesse de la grâce de Dieu, pour faire toucher du doigt là aux Éphésiens la grandeur de leur privilège, la grandeur de la personne de Dieu, la valeur de la personne de Jésus-Christ, l'œuvre du Saint-Esprit également, et il montre finalement quelle est la grandeur de notre privilège, toute notre position en lui. En lui, Dieu nous a, voyez, donné la rédemption par son sang, la rémission du péché selon la richesse de sa grâce. Il est écrit qu'en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon, voyez, la volonté de celui qui opère toutes choses d'après son conseil glorieux. Et puis ici, Paul nous amène à réfléchir. Encore une fois, cette épître s'adresse aux chrétiens et voilà, la plupart d'entre nous ce matin sommes de ce nombre. Paul nous amène à réfléchir sur ce que nous étions autrefois, et c'est bon de ne pas oublier ce que nous étions autrefois, non pas bien sûr pour retourner, pour comme la femme de Lot, vous voyez, retourner dans ce que nous avons délaissé, mais pour mesurer la grâce de Dieu, pour mesurer l'action de la grâce de Dieu dans nos vies, la manière dont elle s'est manifestée par le changement qu'il a apporté en nous. C'est bon de ne pas l'oublier, pour reconnaître aussi. Et c'est, dans un premier temps, ce sur quoi Paul veut attirer l'attention des Éphésiens et ce sur quoi le Saint-Esprit veut attirer la nôtre, bien, c'est le fait que nous devons notre salut à Dieu et nous ne le devons qu'à lui seul. C'est bon, ça, de ne pas l'oublier. Nous devons notre salut à Dieu, nous ne le devons qu'à lui seul. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça ne vient pas de vous. Par grâce, ça veut dire que c'est immérité. Et Paul va même plus loin quand il dit « cela ne vient pas de vous, c'est même pas nous qui sommes à l'origine de la grâce, mais c'est Dieu seul ». Quelle reconnaissance lorsque je considère ce que je suis, il n'y avait rien en moi pour attirer la faveur de Dieu, mais C'est Dieu qui nous a fait grâce. Pour nous amener à prendre conscience de tout ce que nous devons à Dieu, Paul donc rappelle ce que nous étions et, voyez, il emploie plusieurs expressions pour nous le faire comprendre. Il nous dit, vous étiez morts dans vos péchés et dans vos offenses. C'est une réalité, nous étions morts dans le sens où il n'y avait pas en nous la vie de Dieu. Il y avait certes la vie physique, la vie organique, mais, voyez, c'est pas ça la vie. Quand il nous est dit de Jésus-Christ qu'en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes, il est question d'une toute autre vie que la simple vie qui anime le corps. Il est même question de plus que la vie qui anime l'âme de l'homme. Vous voyez, vivre, c'est pas seulement être capable d'éprouver de la tristesse, de la joie éventuellement, et puis de mourir. Non, la vie spirituelle, la vie, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. Il est la source de la vie véritable. Il est le Dieu vivant et vrai. Et ici, bien, Paul nous rappelle que loin de Christ, nous étions morts dans nos péchés. Il n'y avait pas en nous cette vie. Elle a été perdue, cette vie, perdue par le péché, à cause du péché. Dieu avait prévenu Adam, lui disant, le jour où tu mangeras du fruit, de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal, tu mourras. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus cette vie. Et le jour même, vous voyez, cette parole s'est accomplie, comme Dieu l'avait dit. Et la mort s'est étendue à tous les hommes, est-il écrit, parce que tous ont péché. C'est une réalité. Et nous devons nous garder de penser, comme le font certains philosophes, comme l'enseignent même certaines religions, qu'il y aurait dans l'homme une étincelle de vie divine qui ne demande qu'à être rallumée au gré des circonstances, si on le place dans un environnement favorable, etc. Non, non, non. La Bible dit, vous étiez morts dans vos offenses et vos péchés. Et c'est vrai, autrefois, en nous, que nous ayons grandi à l'intérieur de l'Église, que nos parents aient été chrétiens, que nous ayons grandi loin de toute source de foi, ben, en nous, il y avait la mort, vous voyez. Il y avait la mort. Nous étions morts par nos offenses, par nos péchés. Nous marchions même selon le train de ce monde, c'est-à-dire que nous étions emportés par sa mentalité, par ses valeurs, par ses désirs, par ses passions. Vous voyez, il y avait des moments peut-être où notre conscience nous reprenait, où nous étions malheureux, parfois même de nos actes, mis en présence de leurs conséquences sur notre famille, je ne sais pas. Mais au fond de nous, voyez, on marchait selon le train de ce monde, on suivait le mouvement en quelque sorte. C'est ce que Paul rappelle aux Éphésiens. Selon le prince de la puissance de l'air. Voilà, c'est Satan qui est ainsi nommé, et c'est une réalité aussi que l'Écriture nous révèle. À partir du moment où notre vie n'appartient pas à Dieu, où nous n'avons pas dans une démarche volontaire, consciente, reconnue nos offenses, la manière dont nous avons offensé Dieu, notre besoin de pardon, nous n'avons pas eu recours à sa grâce, où nous ne connaissons pas Christ, bien, c'est une parole forte, vous voyez, mais c'est la réalité, c'est l'Écriture qui nous dit que notre vie, elle est sous la puissance du diable. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde trafique avec les démons, ça ne veut pas dire non plus, hein, comme le disent certains, vous voyez, que tout et n'importe qui est possédé par des démons. Mais ça veut dire que celui qui n'est pas à Christ, vous voyez, il appartient, le diable a autorité sur sa vie. D'une manière ou d'une autre. Un jour, en parlant avec des religieux, des hommes qui étaient investis d'une fonction religieuse, dont on reconnaissait une autorité dans le peuple d'Israël, c'est Jésus-Christ qui leur dira, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Ils se figuraient qu'ils avaient Abraham pour père, que leur religion leur apportait à elle seule, voyez, un statut spirituel, un droit d'accès auprès de Dieu, et Jésus-Christ les détrompe par cette parole. C'était notre cas aussi. Vous voyez, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est pour ça, vous voyez, on voit parfois les conflits de ce monde, on voit comme une foule peut se comporter. Ça nous parle, ça nous interroge. Certaines idées peuvent se répandre. Vous voyez, des gens intelligents, parfois que l'on connaît, des gens instruits, des gens qui dans d'autres domaines de l'existence peuvent avoir un raisonnement sain. Mais quand il est question des choses de Dieu, quand il est question des valeurs spirituelles, quand il est question même des valeurs morales, on est tout à fait étonné de voir dans quoi ils mordent. Vous voyez, c'est parce que L'Écriture nous dit là qu'il y a une influence spirituelle, c'est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, et toute l'intelligence des hommes, toute l'instruction du monde ne produit pas la connaissance de Dieu. Pour cela, il faut la vie de Dieu. Il faut la vie de Dieu, et la vie de Dieu ne se donne qu'en Jésus-Christ. Et Paul écrit enfin que nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. La chair ici, c'est la nature de l'homme, loin de Dieu. Et c'est vrai que nous étions dominés par nos passions les plus viles, les plus basses, qui ont dominé par nos raisonnements, par nos folies parfois, nos désirs insensés. Parfois, hein, on se retourne et on voit ce qu'on a été capable de faire. Et vous avez des gens qui le font alors que, voilà, ils vivent, ils se vautrent dans des vies misérables. Mais vous avez des gens qui ont eu un extérieur beaucoup plus respectable. Et pourtant, vous voyez, on regarde la littérature, on voit ces grands écrivains qu'on admire. C'était pas mieux par leurs pensées, par leurs désirs. Et même des gens, parce que ça existe, qui ne sont pas chrétiens, qui ont une bonne moralité, ben voilà, ils s'efforcent d'être honnêtes, ils ont certaines valeurs, mais un jour, ils déraillent. Un jour, d'un seul coup, ils déraillent. Pourquoi ? Parce qu'ils vivaient selon les convoitises de la chair. Voilà l'enseignement de l'Écriture. Et finalement, toutes ces choses nous sont dites pour nous rappeler où nous étions, ce que nous étions. Nous étions finalement, par nature, des enfants de colère, comme les autres. Rien ne nous distinguait des autres. Je crois qu'il y a même des moments où, lorsqu'on réfléchit, voyez, je ne sais pas si ça vous arrive, vous vous dites, mais voilà, je réfléchis à ce qu'a été ma vie autrefois. Je réfléchis même à des hommes, des femmes qui aujourd'hui ne sont pas chrétiens, n'ont pas ouvert leur cœur à la grâce de Dieu. Mais j'étais pire. Voyez, qu'est-ce que Dieu a pu voir en nous ? Qu'est-ce que Dieu a pu voir en nous ? Et Paul dit, mais Dieu, c'est ce qui a tout changé. Mais Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, c'est ça qui change tout. C'est l'amour de Dieu, fait que Dieu nous aime. Dieu est amour, c'est sa nature. Alors nous pouvons le dire ce matin avec des mots, comme nous le faisons. On peut découvrir dans l'Écriture, ça nous fait du bien de l'entendre, ça fait du bien de le dire. Mais il n'y a que Dieu qui peut nous le révéler, ça. Hein, sa nature bénie, il est amour. Et même si nous ne méritons pas cet amour, il nous aime. Comme aucun homme ne peut le dire, ne peut aimer. Voyez ? Et on pourrait dire à quelqu'un ce matin, vous vous sentez en dehors de tout ce qui se fait, en dehors de tout ce qui se dit. Vous savez qu'au fond de votre cœur, cette expérience dont les chrétiens parlent, vous ne l'avez pas vécu, vous ne l'avez pas expérimenté. Quelqu'un dira, j'ai vécu une vie misérable. Moi, pendant que vous parlez de toutes ces choses, j'ai des choses qui me reviennent dans la conscience, j'ai commis des fautes, il y a des choses qui me suivent, il y a des choses qui me tourmentent, j'en rêve la nuit. C'est comme ça que ça se passe. Bien, malgré tout ça, Dieu vous aime. Malgré tout ça, Dieu vous aime. Et l'Écriture dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quiconque, c'est vous. Quiconque, c'est chacun de nous. Mais Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, et c'est vrai maintenant des chrétiens, ça concerne les chrétiens, ce que Paul dit, les chrétiens authentiques, il nous a rendu la vie avec Christ. Et ça, il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. C'est pourquoi Paul le dit. Ce n'est pas nous qui pouvions le produire. Un mort ne peut pas revivre. Il ne peut rien faire. Donc ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, et il nous a rendus à la vie avec Christ. Car c'est pourquoi le Fils de Dieu est venu dans ce monde, l'enfant de Noël, beaucoup le connaissent comme cela exclusivement, qui est venu, allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, prêchant la parole, annonçant le royaume de Dieu. Vous voyez, il était venu non pas pour simplement ces choses, car accomplir des miracles, enseigner, transmettre la parole de Dieu aux hommes, bien des prophètes l'avaient fait avant lui. Mais, voyez, la différence, elle est infinie. Il est le Fils de Dieu, c'est existant de toute éternité en forme de Dieu, il est parfaitement Dieu. On l'a appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et il s'est humilié lui-même, prenant une forme de serviteur, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et là, sur cette croix, l'Évangile nous enseigne, il nous affirme, il nous révèle que s'est chargé de nos fautes, s'est chargé de nos péchés. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, de telle sorte qu'aujourd'hui, celui qui reconnaît son besoin, qui reconnaît sa position de pécheur, sa culpabilité devant Dieu, reçoit en lui un plein pardon. Voyez, il a été frappé à notre place et plus encore nous ressuscitons avec lui. C'est une nouvelle vie qui commence. Béni soit son nom. Nous qui étions morts dans nos péchés, il nous rend la vie avec Christ. Et ça, c'est glorieux. Voilà ce que Paul enseigne pour nous montrer que nous ne devons notre salut qu'à Dieu et nous le devons à lui seul. Et puis, il va plus loin en disant nous sommes son ouvrage. Alors, encore une fois, je le répète, Paul parle ici de l'œuvre de Dieu, il nous parle de l'œuvre de Christ, il nous parle de notre position, et il nous parle de notre position par rapport à l'Église. Car en tant que chrétien, eh bien, on peut agir, mais dans le cadre de l'Église, voyez. Il nous a fait membres de son corps, nous l'avons dit, gens de sa maison. Et en ceci, eh bien, comme pour tous les gens de sa maison, Dieu déploie sur nous ses bienfaits, ses soins, et il nous façonne. Nous sommes son ouvrage. Alors, c'est passionnant de découvrir dans les pages de la Bible que quand il y a une œuvre divine sur la terre, c'est l'ouvrage de Dieu, et c'est fascinant de découvrir la manière dont Dieu travaille, opère son ouvrage à travers des hommes, et même dans des hommes, par des hommes. Tenez, Abraham, dont il nous est dit, c'est Josué qui le rappellera, que Terach, le père d'Abraham, et ses parents étaient de l'autre côté du fleuve, servant d'autres dieux, des idoles. Et qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il ne nous est pas dit qu'Abraham, un jour, a eu l'idée de servir Dieu et de venir s'installer dans la terre, voyez. Mais il nous est dit que c'est Dieu, le Dieu de gloire, qui apparaît à Abraham, qui lui dit « Quitte ta famille, quitte la maison de ton père, va-t'en, et va dans le pays que je te montrerai. » C'était l'ouvrage de Dieu. Moïse, cet homme, là, c'est vrai, il a des aspirations, Moïse. Il a été sauvé des eaux, il a grandi dans la cour de Pharaon, et voilà, il perçoit au fond de lui, c'est vrai, c'est un homme dont les aspirations sont belles. Il est prêt même à mettre sa vie en danger, puisqu'un jour il va défendre l'un de ses frères contre un Égyptien qui le malmène. Il tue l'Égyptien, mais qu'est-ce qu'il gagne ? Vous voyez, il faut qu'il s'enfuit, il doit quitter précipitamment le pays d'Égypte. Pendant 40 années, il fait l'expérience qu'il n'y a pas en lui de choses qui peuvent produire le bien. Et 40 années plus tard, c'est Dieu qui lui apparaît, hein, dans le buisson. Dieu qui lui apparaît dans le buisson, il lui révèle sa volonté, qu'il guide son peuple hors d'Égypte. Moïse a si bien appris la leçon qu'il refuse. Mais Dieu insiste, Dieu le convainc, Dieu le persuade, et c'est l'Exode. C'est l'œuvre de Dieu. Moïse, c'est l'ouvrage de Dieu. On pourrait multiplier les exemples. David, qui a été pris derrière les troupeaux, dont Dieu fera ce roi d'Israël. Gédéon, dont la famille était la plus pauvre parmi les Manassé. Amos rappellera qu'en Israël, Dieu a suscité les prophètes. Paul nous rappellera que Dieu l'avait mis à part dès le sein de sa mère. C'était l'œuvre de Dieu. Et même Jérémie. Jérémie, alors que Dieu lui révèle ce qu'il veut que Jérémie fasse. Jérémie dit « Non, je ne veux pas y aller, je suis un enfant. » Et Dieu va lui dire « Avant même que tu aies été formé dans le sein de sa mère, dans le sein de ta mère, je te connaissais. » Voilà, c'est l'ouvrage de Dieu. C'est l'ouvrage de Dieu. Alors bien sûr, ça ne remet pas en cause notre responsabilité, on va en parler pour terminer, mais c'est bon de se souvenir que voilà, nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage. En tant qu'ouvrage de Dieu, nous avons été créés. Créés dans le sens où Dieu nous a donné la vie quand nous sommes sortis du sein de notre mère, c'est vrai ça. Hein. Le psalmiste, quand il y réfléchit, dit « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vous savez que l'homme accomplit toutes sortes de progrès dans le domaine de la science, pour lesquels nous sommes reconnaissants. Il est capable de faire des choses glorieuses dans le domaine de la chirurgie, dans le domaine de dans toutes sortes de domaines. Il y a des découvertes glorieuses, d'autres qui nous inquiètent un peu parfois. Mais il y a une chose que l'homme n'arrivera jamais à faire, c'est de créer la vie. Pas possible. Parce que ça, ça vient de Dieu. Et Dieu nous a donné la vie. Il nous donne aussi la vie spirituelle. Nous en avons parlé, nous l'avons dit. Et c'est la manière dont il nous crée quand nous naissons de nouveau. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une création, c'est une nouvelle création. Et c'est en ceci que Paul dit ici, nous sommes son ouvrage. C'est une nouvelle existence qui s'ouvre à nous, avec l'espérance, avec l'assurance de la vie éternelle. La vie éternelle qui démarre non pas lorsque nous passons dans l'éternité, lorsque nous basculons, que nous franchissons ce voile de la mort. C'est vrai que pour le chrétien, il y a une espérance glorieuse. Elle pénètre au-delà du voile, comme il est écrit. Nous la possédons comme une encre de l'âme. C'est bon, ça, de savoir qu'après la mort, ce n'est pas le trou noir, ce n'est pas le grand rien, ce n'est pas le néant, ce ne sera pas le jugement, car l'Écriture révèle non pas l'existence d'un trou noir, d'un anéantissement, mais nous révèle qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Chaque être humain rendra compte à Dieu pour la manière dont il aura conduit son existence, pour les bonnes actions, tout comme les mauvaises œuvres qu'il aura accomplies. Mais en Christ, vous voyez, il n'y a plus aucune condamnation. C'est le Seigneur qui dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais cette vie éternelle commence dès à présent. Lorsque nous sommes créés par Dieu, c'est toute la vie qui change. Nos rapports avec Dieu, nos rapports avec les autres. Vous voyez, c'est l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous disons, ça se concrétise. C'est de manière tout à fait concrète. Je me souviens du témoignage de ce pasteur-là qui disait que quand il a grandi au milieu de l'Église. Il a connu très tôt, puisque ses parents la fréquentaient alors qu'il était adolescent, et il n'a pas pu faire grand-chose de mal, puisqu'il allait régulièrement à l'église. Ses parents, vous voyez, lui imposaient un cadre de vie contre lequel parfois il aurait bien aimé se révolter, mais il ne pouvait pas. Et il nous disait, finalement, dans cette église, eh bien à mon fort intérieur, je méprisais les chrétiens. Je les méprisais. Méprisé parce que ce n'était pas du tout la vie que j'enviais, dont je rêvais. Il attendait, je ne sais pas moi, ce qu'il attendait, la majorité pour pouvoir faire ce qu'il voulait, dans cette illusion que cette liberté lui apporterait le bonheur. Et il disait donc, au fond de mon cœur, je les méprisais, ces chrétiens. Puis un jour, il y a la parole de Dieu, parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est permanente. Dieu opère cette œuvre en nous, et comment l'opère-t-il, hein? Il l'opère par sa parole. Il nous a dit qu'il nous régénère par la parole de vérité. Et tout ce que nous disons, bien c'est par sa parole qu'il nous le fait connaître et qu'il nous le fait vivre, expérimenter. Cet homme de Dieu donc disait un jour, voilà, il y a eu cette œuvre en moi, j'ai compris que j'avais besoin de la grâce de Dieu, que Dieu intervienne dans ma vie, qu'il me sauve. Et il dit, j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. J'ai pas eu d'assurance, là, instantané. Vous savez, Dieu ne se stéréotype pas dans la manière dont il œuvre dans le cœur des uns et des autres. Mais il dit, j'ai pris conscience que j'étais devenu moi aussi chrétien. Lorsque je venais dans l'église, je me suis rendu compte que j'aimais les chrétiens. Je me suis rendu compte que j'étais là au milieu d'eux, que ces hommes et ces femmes que si longtemps j'avais méprisés, j'avais pour eux une immense affection. Je les reconnaissais comme des hommes et des femmes de bien. J'étais bien en leur présence. C'était quelque chose qui ne venait pas de moi. C'est Dieu qui l'avait déposé, qui avait changé mon cœur. Et ça l'a affermi, vous voyez. Voilà, il s'est fait baptiser. La vie chrétienne s'est développée. Et il a fini par devenir prédicateur de l'évangile. Vous voyez, cet évangile qu'il méprisait, qu'il combattait même dans son fort intérieur, il l'a annoncé toute sa vie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, je termine avec cette dernière pensée. Dieu nous, fait de nous son ouvrage en nous créant ainsi, mais aussi en nous formant. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, préparés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Effectivement, nous l'avons dit abondamment, si ce n'est pas par ce que nous faisons, pas par les œuvres, que nous pouvons mériter et gagner la faveur de Dieu, le salut, néanmoins, son salut nous introduit dans la pratique d'œuvres. Dieu, quand il nous crée, quand il nous façonne, nous amène à faire ce qui est bien. Et il nous amène à le faire, voyez, de bon cœur. Comment s'y prend-il ? Par sa parole, nous l'avons dit, pour nous amener à la vie, mais aussi pour nous permettre de comprendre ce qui est bon, pour nous permettre de nous améliorer. Et sa parole, elle travaille à cela. Même quand on est chrétien depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ben on voit encore des choses en nous, voilà, hein, qui nous décourageraient s'il n'y avait pas la grâce de Dieu. Et la parole de Dieu, elle nous sanctifie et elle nous lave. Voilà, Dieu a aimé l'Église, Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier et de la purifier en la lavant par l'eau de la parole. Et elle nous lave comment ? En nous révélant ce que nous sommes. Parfois, ça nous amène à dire « Seigneur, misérable que je suis », mais en nous révélant le Seigneur, et ça, voyez, ça nous permet non seulement d'obtenir le pardon, mais de triompher du mal pour ne plus le pratiquer. Par son esprit, voyez, il nous a régénérés par son esprit, mais son esprit continue à agir, à œuvrer en nous. Il prend de ce qui est à Jésus, nous est-il dit, et il nous l'annonce. Les circonstances, car Dieu est souverain. Voilà, on a chanté ce cantique, hein, le cantique d'enfant. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Et ça, c'est vrai. Il nous a dit que Dieu qui a livré pour nous, qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? C'est-à-dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Mais même si ce n'est pas facile de le comprendre, de le reconnaître, il faut le croire. Il faut le croire parce que c'est vrai. Il faut le croire parce que c'est vrai. Si l'Écriture l'affirme, c'est que c'est la réalité. Dieu ne ment pas. Et tenez, quand on considère la vie de Joseph, cet homme qui a grandi là au milieu d'une famille où il était le mal-aimé de ses frères, même s'il était le favori de ses parents. Peut-être que l'un expliquait l'autre. Regardez ce qu'a été sa vie. Vendu par ses frères. Et encore, il a été vendu parce que l'un d'entre eux a été un peu plus miséricordieux que les autres et n'a pas voulu donner suite à leur projet de le tuer. C'était ça qu'il voulait. Alors il est vendu à une caravane de Madianites, il part loin de sa famille. Là, pour lui, il ne la reverra plus jamais. Et là, dans le pays où il arrive, il se retrouve seul, il va être emprisonné injustement. Injustement, alors que c'est un jeune homme fidèle, un jeune homme qui a la crainte de Dieu. Regardez toutes ces années qui se déroulent. Voilà, on n'entre pas dans les pensées de Joseph, la Bible ne nous permet pas de le faire. La Bible n'est pas comme ce livre des hommes, vous savez, où on entre dans les pensées des personnages. Mais il y a dû s'en passer des choses dans ses pensées. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tout ça m'arrive ? Est-ce que Dieu m'abandonne ? Bien sûr, il s'est posé toutes ces questions. Mais Dieu avait sa main sur Joseph. Jamais, jamais il ne l'a lâché. Il y a toujours des moments opportuns, Dieu a su l'encourager pour que sa tête reste hors de l'eau. Et Dieu l'a élevé, et par lui, il a accompli tout son plan pour Israël. Par Joseph, Dieu a accompli tout son plan pour sa propre vie en premier lieu, et même pour que sa vie soit en bénédiction, soit utile à d'autres. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Nous sommes son ouvrage. Un petit peu comme le vase et l'ouvrage du potier, un peu comme la vigne, le sarment de vigne et l'ouvrage du vigneron. Jésus est le vrai cep et Dieu le Père nous façonne. Nous allons nous arrêter là. Je crois que ce sont les paroles que l'on peut voyez, partager, dégager de ce texte de l'épître de Paul aux Éphésiens. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Vous êtes son ouvrage. Il nous a rendu la vie avec lui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous prépare pour des bonnes œuvres. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il a